Message à caractère informatique.
Message à caractère informatique.
Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Message à caractère informatique, épisode numéro 136. Nous sommes le 16 juillet 2025 et je suis Horacio González. Aujourd'hui, je suis entouré de gens merveilleux tels que Yannick Gern. Yannick, tu es là? Ah oui, il était caché dans les nuages.
Je t'ai caché derrière les nuages. Bonjour à tous, je m'appelle Yannick Gern, je suis ingénieur R&D à Clever Cloud et je travaille sur des produits qui sont basés sur FondationDB, donc comme Material TCD, qui est une réécriture de TCD sur FondationDB pour le rendre scalable, et d'autres produits comme Clever KMS.
Bien. Et là en bas, caché dans l'obscurité pour servir la lumière, il y a Erwan. Bonjour Erwan.
Bonjour à tous, un plaisir d'être là avec vous.
Et lui en plus, il est dans un endroit où il y a du soleil. Bon, tu y es Erwan, où est-ce que tu y es au fait?
Eh ben, je profite de ma petite pause estivale pour rejoindre Massy parce que j'adore être avec vous et échanger sur tous les beaux sujets qu'on a en réserve. Et je suis actuellement au Sable d'Olonne pour profiter du soleil et de la mer en famille.
Parfait. Et là, notre invité externe d'aujourd'hui, Constantin, qui doit être caché quelque part. Bonjour Constantin, tu peux te présenter, nous raconter qui tu es?
Bonjour tout le monde, je suis responsable innovation au sein du Crédit Agricole dans la filière Doxalia sur les sujets d'intelligence artificielle et j'ai eu le plaisir de vous rencontrer à Vivatech et d'être invité à ce podcast. Donc hâte de papoter de tous ces trucs de geek, ça va être génial.
Nickel, on est super content de te recevoir. Moi, comme je disais, c'est Horacio González, je m'occupe de la partie des frères de Clever Cloud. Et mon petit accent, vous connaissez l'histoire, blablabla, espagnol, blablabla, perdu en Bretagne, blablabla. Il y a des choses bien
plus importantes
à parler aujourd'hui. Nous avons un vrai ton de liens, je ne sais même pas si on arrivera à les balayer tous. Donc, bon, qui veut se lancer? Qui veut prendre un des sujets et nous raconter? Allez!
Ben écoute, je peux me lancer parce que c'est l'été, on va pouvoir enfin se reposer après des longs mois de travail acharné pour souffler un peu. Et comme beaucoup d'entre nous chez Clever, le logo en D20 n'est pas juste un logo pour faire joli, mais une vraie animation du plaisir du jeu de rôle. Qui dit jeu de rôle dit plein de copains avec qui jouer, c'est cool. Mais des fois, la vie fait que on est tous un peu éloignés les uns des autres à cause du travail, à cause de plein de choses. Et c'est pas facile de se retrouver tous autour d'une table. Donc, ça fait quelque temps que j'ai testé plusieurs solutions de ce qu'on appelle des virtual tabletop, des tables de jeu de rôle virtuels en bon français. Et du coup, j'en ai essayé pas mal, des payants, des open source, des que tu peux héberger toi-même. Et j'avoue que moi, j'aime bien héberger mes choses moi-même parce que, voilà, le cloud ne reste que l'ordinateur de quelqu'un d'autre. Donc, c'est toujours bien de pouvoir avoir un contrôle de ces données, surtout que nos parties de JDR contiennent moult documents et j'ai pas envie d'un jour au lendemain qu'on me dise, il faudra rajouter 25 euros à votre abonnement parce que vous comprenez, vous avez déjà consommé un Tera 2. Et ça va vite un Tera 2, hein, quand tu commences à mettre de la bonne vidéo, des fichiers audio, ce genre de choses. Donc, il existe un outil que je trouve vraiment pas mal, que j'hébergeais sur mon serveur personnel depuis un petit moment là, qui s'appelle Foundry VTT.
Ok, il est vraiment très bien.
Et il est vraiment excellent. Et surtout, moi, ce que j'aime, c'est sa facilité à être customisé. Le projet est écrit en Node.js principalement, avec énormément de JavaScript pour différents modules X ou Y. Et même toi, tu as la possibilité de rajouter tes propres modules. Donc, quand tu as accès à un outil de code via AI comme Windsurf ou autre, c'est juste extraordinaire parce que du coup, tu peux faire des choses très rapidement sur l'outil parce qu'il est extrêmement bien documenté, les API et tout ça.
Il est fait pour être extensible. Il a été créé en pensant que les gens vont toujours pouvoir ajouter leur propre système, leurs propres règles, etc. Donc, dès le démarrage, tout est pensé pour que, en tant qu'utilisateur, tu puisses te l'approprier.
Exactement. Et puis, des fois, tu as fait une partie qui est déjà bien calibrée, bien rodée, tu as besoin de la dupliquer pour la rejouer avec une autre table, mais tu n'as pas envie de te refader tous les trucs, machin. Eh bien, tu as la possibilité de dupliquer tes mondes, rajouter des gens dessus, voir qui voit quoi. Mais surtout, l'autre avantage que ça a, c'est de permettre à tes joueurs en asynchrone de pouvoir accéder au serveur pour se remettre à niveau ou relire, repenser les choses. Sauf que moi, je l'hébergeais à la maison et je le faisais pas tourner tout le temps, le serveur. C'est-à-dire qu'il y a des moments, je le killais pour économiser des ressources sur le serveur de la maison, surtout avec la canicule, là, il commençait un peu à chauffer. Donc, je me suis dit, est-ce que ça peut tourner sur du Clever, puisqu'on, après tout, on a un runtime Node.js, on a la possibilité de plugger du file system et puis du S3. Et j'ai commencé à jouer avec ça pendant ma pause estivale. Et en à peine une demi-heure, j'ai réussi à booter une version de Node.js. Et vu que le 20 mai dernier, il y a un nouveau JDR que je trouve assez novateur et assez intéressant, qui s'appelle Daggerheart, qui est sorti récemment.
Bah oui.
Et sur lequel t'as des systèmes de cartes, des systèmes de dés. Donc pour les plus geeks d'entre nous, je trouve que ça ressemble beaucoup au système Edge de Star Wars, repackagé, mais vraiment sur un esprit storytelling, un peu découpé comme une série télé. C'est-à-dire que en fait, s'il y a des scènes, on s'en fout. Tu vois, le petit déj, on n'en a rien à foutre dans un JDR. Donc, squeezons ces parties-là et raisonnons scène par scène. Avec vraiment l'idée de construire une équipe complémentaire. Le système de jeu est assez novateur. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un système qui est porté par Critical Role, qui est un groupe de comédiens vocaux que vous avez déjà peut-être entendu dans certains jeux vidéo, séries télé et autres, qui tournent depuis maintenant plus de 10 ans aux US et qui ont même mis en animation leur partie de jeu de rôle avec la série Amazon qui s'appelle The Legend of Vox Machina. Si vous connaissez pas et que vous aimez l'humour un petit peu ronflonflon, moi je vous la recommande. Moi j'apprécie énormément cet univers. Et donc du coup je me suis dit tiens c'est l'occasion parce que un système Daggerheart, il n'en existe pas encore d'officiel sur Fonderie VTT. Donc, je me suis dit, why not essayer de coder mon propre système sur Fonderie à gros coup d'IA en y allant comme un gougnafier. Et pareil, ça, c'était, tu vois, deux nuits blanches d'insomnie sur lequel j'ai bossé. Et j'ai pu bootstrapper tout un système avec la reconnaissance des dés, parce qu'en plus, tu as les dés 3D virtuels. Et en fonction de comment tu fais tes GD, tu vas avoir soit un succès avec espoir ou un succès avec peur. Et sinon, tu peux aussi avoir un échec avec espoir et un échec avec peur. En gros, ça te permet, plutôt que d'avoir une réussite ou un échec, je dirais de façon binaire, comme un bon vieux Donjons et Dragons qu'on a tous connu, l'idée, c'est d'apporter un peu de nuance. Un peu, tu vois, comme dans Star Wars, quand Han Solo dit « Attends, bouge pas, je vais te pirater cette porte ». Il n'y arrive pas, mais c'est pas grave, il a un autre truc qui lui permet de rebondir. Tu vois? Donc du coup, ça permet vraiment d'engager avec tes joueurs un storytelling et qui est vraiment extraordinaire. Et du coup, Fonderie VTT, tu vois, ça se prête parfaitement à ça. Tu as une idée, même un JDR, je dirais, qui est peu connu comme le Donjon de Nahalbuck, a son système de jeu sous Fonderie VTT et qui est extraordinaire. Et du coup, une fois que c'est hébergé chez Clever, que tu crées une room ou 20 rooms, ça coûte pas plus cher. Et du coup, je me suis amusé à faire le calcul parce que je suis un peu radin. Tout un système avec le S3 storage, le file system storage, la base de données PG qui va bien, j'étais moins cher qu'un Roll20 hébergé chez Clever. Et je vais même pousser mémé dans les orties. J'ai utilisé un des coupons qu'on donnait au Devox ou dans les autres salons auxquels on a été, petit coupon de 50 balles, et rien qu'avec ce coupon-là, vous pouvez vous faire tourner votre Fonderie VTT gratuitement pendant un an. Easy. Donc,
écoute, la seule chose qui nous manque, c'est les petits tutoriels sur GitHub, les petits repos d'exemples. Mais je pense qu'après tes vacances, tu vas t'attaquer à ça.
Eh oui, il faut qu'on fasse une petite relecture et puis qu'on s'assure que j'ai pas oublié des petites lignes de commande ici et là, parce que tu sais, des fois, tu tapes plein de choses et puis quand tu dois faire le petit tuto, tu dis, c'est bizarre, il manque une commande. Il faut qu'on finalise ça pour août, c'est dans le pipe. Mais je recommande vraiment l'outil à tout le monde, la licence. Il faut quand même payer une licence
une seule fois,
voilà. C'est du lifetime, elle est pas chère, franchement. Et, 50 balles. Ouais.
Depuis au moins 50, mes mises à jour, moi, donc.
Et puis surtout, c'est tes données. C'est ça qui, pour moi, est le plus important. C'est-à-dire que tous les trucs que je vais rajouter, tous les artworks, parce qu'en plus, j'utilise un outil d'IA qui est extraordinaire qui s'appelle Invoke AI, que je recommande d'ailleurs au passage pour ceux qui ont un peu de GPU à cramer. Moi, je fais toutes les images, tous les fonds d'écran, que ça soit du Theater of the Mind ou même des maps de combat. Je les retravaille avec Invoke et ça permet vraiment de décupler ta créativité, surtout quand t'es débordé de ta vie et que t'as pas le temps de préparer tes JDR matin, midi et soir. J'ai trouvé vraiment l'outil adaptable. Et vraiment, je le recommande à tout le monde. J'aurais aimé qu'il soit full open source parce que le projet est extraordinaire et je pense qu'il pourrait gagner avec une bonne communauté à s'élever au travers de l'open source. Mais bon, ils ont fait le choix d'une licence économique, ça se comprend. Mais pour un projet qui existe depuis maintenant plus de 5 ans, si je dis pas de bêtises, franchement, on a un produit de grande qualité, je trouve. Et qui apporte énormément de choses. Donc voilà, c'est ma petite recommandation. Si vous avez un petit projet de l'été sympathique à faire, je vous invite vraiment à regarder Fanvim et TT, parce qu'il peut sûrement vous aider à recommencer le JDR, voire même passer dans le virtuel des parties de JDR que vous n'arrivez pas à lancer tout le temps. Et je suis même tombé, quand j'ai fait mon installation, sur un nouveau plugin qui vous permet d'avoir, tu sais, ce qu'on lisait quand on était jeune, les livres dont vous êtes le héros, où tu fais ton JDR tout seul avec ton crayon et ton dé. Et ben là, tu as ce genre de mécanisme qui existe dans Foundry VTT, où il y a des gens qui ont fait des sortes de livres dont tu es le héros pour jouer toi tout seul sur ta propre plateforme. Je ne les ai pas testés de façon plus extensive que ça. Mais voilà, c'est pour montrer vraiment la versatilité du projet et qui s'installe vraiment très facilement.
Et tous les liens de tous les décès dont Erwan a parlé seront dans l'épisode, y compris de Fondry lui-même, de Dara, de Critical Role, etc. etc. Merci,
Erwan. Je peux me permettre de rebondir sur un point. La communauté s'est déjà amusée à faire les modules de DaggerArt. Ils sont déjà disponibles. Et pour en avoir testé 2-3 sur mon serveur, ça fonctionne très bien. Après, je suis pas bon. Donc, si tu as un truc qui coûte moins de 50 balles l'année, qui fait tourner le module Fonderie pour moi, je serais très heureux d'en parler. C'était pour la campagne des 12 singes de Paxelfica que j'utilisais le module. Et en fait, là, tu vas acheter la campagne en mode module Fonderie. Et t'as tout qui est déjà préinstallé. T'as des milliers de packages avec toute ta gestion des fiches de tes personnages, des PNJ et tout. C'est trop bien.
Ah, c'est cool, ça.
Ouais, les douceurs, ils font un travail assez étonnant. Hein. Vraiment très, très complet et qui s'inclut complètement avec Fonderie. Et la communauté est ultra au taquet sur créer des modules. Mais il faut pas trop regarder tous les modules possibles de Fonderie parce que c'est un terrier de lapin où... Tu peux te retrouver avec des monstres de Frankenstein comme pour chez moi où tu as 200-300 modules qui tournent.
Ouais, exactement. Ouais. Mais il y en a certains, c'est des incontournables et après, en fonction des systèmes, tu es obligé d'en rajouter quelques-uns. Je trouve que la gestion du web audio est super bien faite parce que tu as la possibilité, un peu comme sur Roll20, de mettre tes cartes, de mettre des sons et en fonction de là où les gens vont se déplacer, ils entendront eux le son mais pas les autres. Tu vois, tu as vraiment
la spécialisation. Ouais. C'est trop cool.
Franchement, il est très complet. Il manque à mes yeux un petit peu de facilité d'usage pour avoir eu des plein de mal de personnes à moins techos qui ont essayé l'outil. Mais vraiment très chouette. Et pour finir sur DeviantArt, pour moi, c'est vraiment le mélange entre Star Wars avec le système Edge, de réussite avec échec de temps en temps, du D&D sur le côté un peu crunchy, la mécanique de économie d'action, tout en ayant le côté Power by the Apocalypse, où tu as vraiment le théâtre de l'esprit et le fait d'avoir quelque chose de fluide. Détruire la mécanique d'initiative, mais quel plaisir, ça fait que ça va tellement plus vite dans les parties. Je recommande chaudement.
C'est quand même... Et il ne faut pas nier qu'on est un libéraliste quand même, c'est drôle.
Ah non, ouais. Mais c'est pas pour rien que j'ai backé la formule maximum de DeviantArt.
Oui, parce qu'il y a récemment le crowdfunding pour la version française qui est sortie et qui était plutôt très bien.
Bon, bah... On a terminé hier le crowdfunding.
Oui, ouais, j'ai pledgé, j'avoue. J'ai pledgé tout de suite, tellement ça valait le coup. Et il y a un autre module que moi je recommande pas mal, surtout s'il y a des gens qui font du Donjons et Dragons. C'est le module de Reaper qui permet en fait de te donner une interface à tes joueurs qui ressemble à Baldur's Gate 3.
Oh.
Et donc, du coup, quand tu as des gens, tu vois, qui ont découvert cet univers au travers de BG3, et ben du coup tu leur dis bah attends viens là ce sera encore mieux et du coup tu peux faire comme ça les choses et c'est vraiment extraordinaire et ça ne m'étonnerait pas que dans les prochains mois et prochaines années de plus en plus de modules de ce type là existent parce que vu que c'est du full web by design. Bah, il y a quand même pas mal de développeurs front-end, back-end, talentueux qui, tu vois, sur leur spare time, développent des choses extraordinaires et qui les mettent gratuitement à la communauté. Et ça, je trouve ça vraiment extraordinaire. Je pense à BaileyWiki aussi, qui font énormément d'assets que tu peux comme ça dropper on the fly pour permettre à tes joueurs vraiment bah, une immersion. Et c'est ça que je trouve vraiment vraiment extraordinaire. Par défaut, il y a un système de caméra et de chat audio-vidéo qui est pas mal. Moi, j'avoue que j'ai fait le choix de l'upgrader avec un live kit auto-hébergé parce que je gagnais vraiment en qualité sur ça. Il suffit que tu t'es mis un petit serveur turn qui va bien, comme ça tu bypasses tout ce qui est pare-feu et trucs à la con comme ça. Comme ça, je vais me faire disputer par notre RSSI si je dis des choses comme ça, mais l'idée c'est vraiment voilà, de faciliter les choses. Il faut mettre un peu les mains dans le cambouis, mais il ne faut pas être ingénieur Node.js avec 15 ans d'expérience pour le bootstrapper. C'est vraiment un bon produit, je le recommande chaudement.
Bon, bah.
Pour l'interface, elle est chouette. Hein. Merci pour le lien.
De rien.
Bon, bah, on a plein de liens. Bon, bah, on va changer un peu de sujet. Yannick, j'avais cru comprendre que tu nous voulais parler des dernières joujoux avec lesquelles tu passes de serre et de serre et de serre ces derniers temps.
Oui.
Et que tu as découvert grâce à l'envie de dessiner, si j'ai bien compris.
Oui, en gros, j'écris des articles de blog techniques. Et je les illustre avec les dessins que je fais moi-même sur mon iPad. Et à un moment, j'ai eu une envie, c'était de dessiner une abeille. Je ne sais pas pourquoi, c'est des envies comme ça qui arrivent. Et du coup, bah, j'ai essayé de chercher une technologie qui utiliserait l'abeille pour pouvoir créer mon article et pouvoir dessiner mon abeille avec. J'ai vu plein de technologies. Donc, par exemple, il y a Hive qui est dans le domaine du distribué. Sauf que j'en avais déjà fait dans un précédent boulot et je savais que c'était pas quelque chose dont j'avais envie de faire un article dessus parce que c'est très, très compliqué à vulgariser et ça m'intéressait pas réellement. Du coup, j'ai continué ma route et je suis tombé sur un projet qui s'appelle EBPF qui a une abeille comme logo. Cet article, je l'ai jamais écrit. Parce que quand j'ai commencé à m'intéresser à EBPF, je suis arrivé à ce que j'appelle les portes de l'infini. Tu ouvres la porte, tu vois quelque chose et tu te dis « Waouh, mais je vais passer ma vie là-dedans. Est-ce que j'ai le temps de faire ça maintenant, tout de suite ?» Du coup, j'ai refermé la porte très gentiment en disant on verra ça plus tard.
Ok, jusqu'à là, j'ai compris. Et comment est-ce que tu es revenu ?
Je suis revenu parce que je suis en train de, sur mon temps libre, d'essayer de réécrire Kubernetes en Rust en utilisant de la micro-VM, donc du Firecracker, et en se départissant de problèmes qu'a le réseau dans du cube, qui est de s'appuyer sur de l'IP table. Et du coup, on se retrouve à avoir un spaghetti monstrueux d'IP table qui doit faire tous les ACL sur les discussions entre les différents pods. Sauf qu'en fait, ce problème, il a déjà été réglé, et il a déjà été réglé il y a très longtemps, même plus vieux que moi, puisque le début de BPF, puisque c'est de ça qu'on va parler, c'est un projet qui date de 91 et qui a été créé pour faire en fait du tracing sur ce qui se passe dans le réseau.
Là, du j'ai coup, remarqué.
Oui.
Anne, c'est pas gentil de faire sentir tes camarades si vieux que ça. 91 C'est pas si vieux que ça. Tu restes un petit jeune.
Oui.
Mais, pour ceux qui ne connaissent pas Yannick, c'est le gars qui un jour il se lève et dit je voudrais bien réimplémenter SQLite en Rust. Et après, il passe pendant 2 ou 3 mois ses soirées à les faire et à les documenter et à produire des super articles de blog et de streaming en le racontant. Donc, j'ai hâte de voir la série sur Je vais refaire Kubernetes en Rust.
Là, c'est en cours.
Il faut vraiment se cogner très fort le genou, tu sais, en sortant, tu vois, de la baie en disant « Fuck, je vais réécrire Kubernetes », tu vois. Il y a un truc comme ça qui a dû se passer en mode « Ouais, vas-y, c'est faux, on y va. »
Ouais, continue.
Et du coup, en se basant sur ce petit projet BPF, qui au début était quelque chose de très simple, puisque c'était uniquement pour faire du tracing, des personnes à Red Hat se sont dit est-ce qu'on ne pourrait pas appliquer ce qui se passe sur BSD, mais sur Linux ? Et du coup, ce projet est devenu Extended BPF pour Extended Berkeley Packet Filter.
Ok.
Et à partir de là, on commence à jouer vraiment. Parce que le système, en fait, va venir servir à étendre les fonctionnalités du noyau Linux. Il faut faire un petit peu de prog système pour comprendre un petit peu comment ça se passe. En gros, quand vous avez un système d'exploitation, vous allez avoir un ensemble de processus qui vont tourner, qui vont vouloir atteindre des ressources. Donc, par exemple, une carte réseau pour aller lire un stream TCP qui a été reçu. Sauf que le problème, c'est que la carte réseau, c'est un truc qui est assez idiot. Il n'est pas capable de gérer plusieurs personnes qui vont le taper simultanément. Il va s'en mêler les pinceaux et il va faire n'importe quoi. Et du coup, ce qu'on fait, c'est qu'on crée une lasagne dans un système d'exploitation. On va avoir une couche qu'on va appeler la user space et une autre couche qui va s'appeler la kernel space. Mmh. Et la kernel space, c'est la seule couche qui est capable de venir taper les périphériques, dont la carte réseau.
D'accord.
Et donc, vous, en tant que processus qui tourne dans le user space, vous ne pouvez pas taper directement la carte réseau. Vous êtes obligé de demander gentiment au kernel de venir transmettre l'information à la carte réseau, mais c'est le kernel qui décide à quel moment il va le faire. Et du coup, pour discuter entre le user space et le kernel space, on a ce qu'on appelle des syscalls.
Okay.
Syscalls, c'est du code qui va être fourni par le système d'exploitation. Généralement, c'est la libc qui le fournit, ce truc-là. Et dans ces syscalls, bah, on va avoir ouvre-moi un socket, bind, machin, bidule, truc. Toutes ces opérations, en fait, elles vont partir du user space, arriver dans le kernel et atteindre la carte réseau. Du point de vue user space, on a l'impression que c'est une boîte noire. Mais en fait, c'est pas du tout une boîte noire parce que à n'importe quelle étape du pipe qu'il y a entre le user space et la carte réseau, en fait, on va pouvoir accrocher des hooks qui vont permettre de pouvoir faire des opérations entre une étape dans le kernel et une autre étape dans le kernel. Et à partir de là, ça devient très, très rigolo parce que ce qui est capable de faire le BPF, c'est de prendre, par exemple, le paquet qu'on veut transmettre à la carte réseau. On parse le paquet, donc vraiment les bytes qui sont à l'intérieur du paquet. Et par exemple, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut récupérer l'adresse de destination ou l'adresse de source et venir prendre une décision à la place du kernel en disant « Est-ce que ce paquet, on va le dropper ? Est-ce que ce paquet, on va le laisser passer ? Ou est-ce qu'on va le rediriger vers ailleurs ?» Et donc, grâce à ce petit système, en fait, ce qu'on est capable de faire, c'est qu'on est capable de créer un firewall sans devoir dépendre du fonctionnement du kernel. Et donc, au lieu de devoir se baser sur ce qu'on appelle Netfilter, qui est un module qu'on a dans le kernel, en fait, on va avoir un programme qui va tourner de manière privilégiée à l'intérieur du kernel en tant que add-on, comme vous parliez tout à l'heure de tous les trucs qu'il y a dans Foundry. Ben, en fait, ça va être pareil, ça va être des modules qu'on va venir ajouter dans le flux qu'on a dans le syscall, qui va venir faire des opérations. Et ce truc-là, ce qui est génial, c'est que depuis le user space, on est capable de contrôler le comportement du système qui est dans le kernel. Et donc, si par exemple, on a envie de venir rajouter une nouvelle IP qui est bloquée, on peut le faire via un programme qui est en train de tourner dans le user space, qui va venir appliquer la modification dans le kernel qui est déjà en train de tourner. Et comment est-ce que tout ce bordel peut fonctionner correctement et de manière sécurisée ? En fait, ce qu'on a à l'intérieur du kernel, c'est qu'on a une machine virtuelle qui va venir soit interpréter du code assembleur, soit venir faire du just-in-time compilation sur du code qu'on va lui fournir. Et du coup, l'intégralité de ce que l'on va faire dans notre programme eBPF ne va pas impacter ce qui va se passer dans le kernel. Tout ce qui se passe à l'intérieur de la VM est entièrement enfermé dans une enclave qui ne peut pas aller taper des choses qu'il n'a pas le droit d'aller taper, par exemple. Mais par contre, étant donné qu'on est dans le kernel, si on veut venir lire des informations dans des buffers du kernel où on n'a pas le droit, où on est en train de faire des opérations qui sont invalides, bah le système, en fait, il va mourir instantanément. Il y a plein de contraintes qu'on est en train d'écrire de l'eBPF, par contre. Par exemple, étant donné qu'on est en train de manipuler quelque chose qui est en train de tourner à l'intérieur du kernel, bah on n'a pas de heap. Parce qu'il n'y a pas moyen, en fait, de venir allouer de la mémoire pour un processus, puisqu'il n'y a pas de processus. Du coup, ce qu'on a, c'est qu'on a une stack, et la stack, elle est très très réduite. Elle fait 256K si mes souvenirs sont bons. Donc, si vous êtes en train de faire des choses très compliquées, bah, va falloir un peu ruser. Et pour ruser, en fait, ce qu'on est capable de faire, c'est qu'on est capable de créer plusieurs programmes eBPF et de venir, au moment où il y en a besoin, venir faire des jumps entre les différents programmes. Il y a des limitations. On peut ne faire que 33 couches d'appels. Donc, à partir de 33 couches, le système nous dit bah non, tu ne pourras pas aller plus loin que ça. Mais on peut déjà créer 33 sous-programmes qui vont permettre de pouvoir avoir une nouvelle stack qui va être un petit peu plus petite. Je crois que c'est 128 kilos pour pouvoir faire des choses plus complexes.
Et avec quoi on code ça ? Tu nous as parlé de ces programmes BPF. Oui. Et se coder en quoi ?
En assembleur. Il y a un code assembleur spécifique qui s'appelle le BPF assembleur. Sauf que personne ne veut coder en BPF assembleur. Du coup, ce qu'ont fait les personnes, c'est qu'ils ont créé des compilateurs. Et donc, la manière canonique de faire les choses, c'est on utilise la LLVM et la LLVM est capable de compiler du code C vers de l'eBPF. Sauf que le code C, bah, c'est quelque chose qui est assez intransigeant sur les erreurs que peut faire le développeur. Et du coup, on peut avoir des langages de programmation qui vont être un petit peu plus gentils pour le développeur.
Là, donc, il est arrivé avec ses grands chevaux, notre petit Yannick.
Non, justement, le début des histoires commence par Go. Parce qu'en fait, Kubernetes a déjà fait une tentative de virer IP table, et une tentative réussie. Le projet s'appelle Cilium et permet justement d'utiliser le BPF pour faire toutes les transitions entre les différents pods et de nœud à nœud. Sauf que là, par contre, tu as le droit de dire avec les grands chevaux. Moi, le Go, je ne suis pas très fluente dedans, voire pas du tout. Et du coup, j'ai essayé de regarder ce qu'il y avait en Rust. Et du coup, j'ai tapé Rust eBPF.
Et t'es tombé sur Aya?
Non, je suis tombé d'abord sur un autre projet qui s'appelle RBPF. RBPF, c'est ce qui te permet de venir écrire un programme sous la forme d'un point objet, de lire ce point objet et de venir le compiler après en assembleur pour faire quelque chose. Sauf que c'est quelque chose qui est extrêmement bas niveau. Et donc, quand on est en train de manipuler du RPBF, on est en train de lire littéralement de l'assembleur. Si on décompile le truc, en fait, on va voir les différents opcodes qu'il va y avoir dans l'assembleur. C'était trop bas niveau pour moi, parce que j'avais pas envie de faire ça dans ma vie. De toute façon, c'est totalement impossible à l'échelle de gérer avec un tel niveau de profondeur. Du coup, j'ai continué mes recherches et je suis tombé sur un autre projet qui, lui, s'appelle Aya, qui est un framework qui utilise RBPF pour justement rendre plus facile la vie des utilisateurs. Et donc, quand tu crées un projet Aya, en fait, tu as un template pour les personnes qui ont déjà utilisé Yeoman. C'est un truc qui est très, très vieux, qui date de la préhistoire pour moi, quand je faisais du JavaScript, qui permettait de...
Spoiler, Yeoman, c'était l'outil que j'ai forcé Yannick à utiliser quand je lui ai donné des cours quand il était en école d'ingénieur il y a très longtemps.
Et du coup, ce projet, il permettait de scaffold des projets extrêmement rapidement. Il y a la même chose en Rust, et du coup, on a la possibilité en fait de créer des templates de projets eBPF. Et du coup, le projet eBPF, il va se décomposer en deux crates. Donc, une crate en Rust, c'est une librairie. On va avoir une librairie qui va être la librairie User Space, donc celle qui va servir de processus et qui va permettre de contrôler le BPF et le BPF en elle-même. Comme on est en train de faire de le BPF, on se retrouve à écrire du Rust qui est un peu étrange. Déjà, c'est du Rust qui n'a pas le droit d'allouer de la mémoire. Il n'a pas de librairie standard et l'intégralité de toutes les collections qu'on peut utiliser en Rust sont interdites. Puisque toutes les collections se basent sur de la location mémoire. Et du coup, le framework Aya a réécrit des implémentations de maps, de listes et de tout ce qu'on a besoin, mais sous la forme de choses qui vont tourner uniquement dans la stack. Et à partir de là, on va pouvoir en fait venir écrire du Rust classique, à quelques exceptions près, parce que comme le BPF manipule des buffers, Rust n'est pas capable de te dire cette information-là, je suis sûr qu'elle est en mémoire. Du coup, on se retrouve à avoir du code qu'on appelle du code unsafe, où on dit littéralement au compilateur, TKT, je sais ce que je fais, si je me foire, c'est ma faute. Et à partir de là, on va pouvoir faire ce que j'avais dit, c'est prendre un paquet brut qui vient de la carte réseau, venir le parser, récupérer les informations qui nous intéressent, prendre une décision sur le paquet, donc le laisser passer ou le dropper, et renvoyer le résultat au kernel. Le kernel va interpréter l'information et faire ce qu'on lui a dit de faire. Et à partir de là, on peut vraiment beaucoup s'amuser parce qu'il y a énormément de choses qui peuvent être faites avec de l'eBPF. La chose que je vous ai expliquée, ça s'appelle du Express Data Packet. Donc, c'est en gros, c'est à partir du moment où le paquet sort de la carte réseau, on va avoir ce qu'on appelle une interruption hardware qui va venir dire au kernel, là, il y a un truc, tu vas pouvoir aller le lire. Et ben, juste avant que cette opération n'apparaisse, on va venir s'intercepter le truc, le paquet qui arrive, faire la décision à la place du kernel de ce qu'il y a à faire. Et si on a droppé le paquet, ce paquet n'ira jamais dans les couches supérieures du kernel. Ce qui fait que on est capable de nettoyer du trafic à la vitesse de la lumière. On est 4 fois plus rapide que le kernel quand on est en train de faire de l'EBPF pour aller dropper de la, du paquet.
Ah ouais.
Et c'est pareil,
la question que j'allais te poser sur la latence de tout ça, parce que ça te rajoute forcément des couches.
Non, c'est beaucoup plus rapide. C'est beaucoup plus rapide. Ah, ouais.
Impressionnant.
Et pareil, si vous faites de la redirection de paquet, bah comme vous allez renvoyer le paquet directement à un autre, ce qu'on appelle un NIC, donc une interface réseau, donc virtuelle ou physique, bah en fait, vous n'allez pas passer non plus par toutes les couches qu'il peut y avoir dans le kernel, dont la couche NetFilter. Ça, c'est une utilisation possible, mais on peut aussi utiliser l'utilisation originelle de BPF qui était de venir faire du debug sur du paquet. Et donc, on a tout un module qui s'appelle TracePoint qui va nous permettre de pouvoir faire de l'audit en fait sur ce qui se passe. Et donc, si par exemple, vous êtes en train de venir créer un système en fait qui va venir loguer l'intégralité de tout le trafic qui est en train de passer par un firewall, bah, au lieu d'avoir, un Nginx qui log les différentes informations et du coup, vous récupérez les logs du Nginx pour récupérer les différentes IP entrantes et sortantes, bah, en fait, ce que vous pouvez faire, vous écrivez un programme BPF, vous loguez l'intégralité de tout ce qui est en train de passer sur la carte réseau et vous n'avez plus besoin du Nginx. C'est juste un processus qui tourne dans le kernel et tant qu'on ne lui a pas dit de mourir, bah, il va continuer à loguer les informations. C'est juste de la magie noire, c'est juste trop bien.
Donc, tu es plus rapide et en plus, tu as de l'observabilité.
Oui.
Putain.
Il y a
de la sécurité supplémentaire, tu as de l'observabilité, tu es plus rapide. Pourquoi c'est pas plus utilisé?
Parce que c'est très très compliqué à mettre en place.
C'est un cauchemar, d'accord.
Exactement.
Ça a l'air d'être une poupée russe où à la fin, t'as de l'assembleur. Donc généralement, ça fait peur aux gens. Alors que l'assembleur, c'est quand même cool. Enfin, je veux dire, on s'est tous arraché les cheveux dessus. Hein. Moi, j'ai toujours les miens, donc ça va.
Le XDP, c'était facile parce qu'on manipulait ce qu'on appelle un paquet réseau. Et le paquet réseau, ça va juste être parsé des informations qui sont binaires. Donc ça, ça va, il y a un layout, il suffit juste de suivre le layout, se déplacer à l'offset qu'il veut, ce qui est bien, et puis tu récupères l'information. Sauf qu'il existe d'autres systèmes en eBPF qui s'appellent le LSM. Le LSM, c'est comment faire du apart-mort et du SE Linux. À chaque fois qu'un processus va démarrer ou veut faire une opération, donc par exemple, un processus a envie d'augmenter son NICE. Le NICE, en gros, c'est comment est-ce que on va prioriser le temps d'exécution d'un programme à l'intérieur du système d'exploitation. Plus le NICE est négatif, plus le programme est méchant et du coup, il veut garder sa place. Plus il est NICE, plus il est gentil et il laisse sa place. Et donc, ce qu'on peut faire avec un eBPF LSM, c'est de dire si un processus qui a tel PID essaye de se NICE à un NICE qui est inférieur à 0, refuser carrément de faire l'opération. Et donc, quand la personne va essayer de re-NICE son processus, il va avoir une opération not permitted. Et c'est pas le kernel qui lui a répondu, c'est le kernel qui lui a répondu, mais c'est nous, en fait, qui avons pris la décision à l'intérieur de l'eBPF.
Oui, et du coup, tu es tellement bas niveau dans ton système que tu peux t'implanter sur n'importe quel type de kernel. C'est-à-dire que si des fois j'ai un routeur qui tourne avec un kernel Linux, je pourrais déployer ce genre de système directement sur mon routeur.
Oui,
j'ai bien compris.
Oui, et c'est pas dépendant de l'architecture du processeur. Donc moi, j'ai joué que avec du x86. Mais si tu as envie de faire du MIPS, tu peux faire du MIPS si tu as envie de t'amuser.
Ou de l'ARM, whatever. Quoi.
C'est ça.
Ah, c'est kiffant ça, ça me plaît bien.
Sauf qu'il y a une fois... Erwan vient d'être piqué par une nouvelle envie.
Ouais, bah, j'ai une idée là.
Sauf qu'il y a un petit problème. C'est que, étant donné qu'on est en train de manipuler des trucs très, 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 très banaux, bah, ça veut dire qu'il faut comprendre comment fonctionne la programmation système du kernel Linux écrit en C. Parce que ce que vous allez obtenir quand vous allez manipuler, par exemple, du LSM, c'est un contexte, et ce contexte, c'est un pointeur vers void étoile. Void étoile, pour ceux qui ne savent pas, on sait, c'est quelque chose qui existe quelque part. On ne sait pas ce que c'est, c'est à nous de nous démerder de savoir qu'est-ce qu'il y a derrière.
C'est le chat de Schrödinger, mais on sait.
C'est ça. Qui peut ne pas exister, justement, parce qu'on peut déréférencer un pointeur qui n'existe pas, et là, c'est la fin.
Oh mon Dieu. Bon, bah, on a un nouveau projet pour Erwan et une belle découverte pour Yannick. On va continuer avec nos news. Constantin, tu n'avais pas aussi quelques sujets? Si, tu avais noté quelques sujets sur lesquels tu voulais nous parler. Allez, prends ce qui te botte le plus en ce moment.
En ce moment, il y a beaucoup d'initiatives qui sont assez intéressantes sur le fait qu'il y a un scrapping des intelligences artificielles globales de tout l'Internet. Et qu'on est passé de grosso modo à 5% du trafic à plus de 60% sur le courant de l'année, qui sont représentés juste par des IAGM qui viennent voler le contenu de ton site, de ta vidéo, de ton podcast, et qui derrière vont aller...
Anubis.
Voilà, exactement. Anubis m'a vu venir à des kilomètres, qui est le truc utilisé en ce moment par tout le monde. Mais je pense que Yannick ferait mieux en parler lui, parce qu'il a l'air bien plus au taquet. Là où moi j'ai vu que c'était juste une librairie qui avait l'air intéressante, communautaire, pas mal réutilisée par des institutions hegeliennes américaines, entre autres. Je suis sûr que toi, tu as l'aspect technique de la chose en mode « Non, là, c'est bien. »
Pour le coup, non, je ne l'ai pas parce que je n'ai pas encore joué avec et je dois l'installer sur mon blog parce que je commence à avoir du trafic qui n'est pas du trafic que j'ai envie de gérer.
Voilà, donc en fait, tous les sites internet en ce moment, on se retrouve avec beaucoup de trafic qui n'est pas du trafic utile, qui va donc dépenser énormément de ressources et c'est un peu dommage. Et tout le monde est un petit peu mitigé entre « Est-ce qu'il faut que je coupe ?» ou est-ce qu'il faut que je empoisonne le puits? Et une remarque que j'ai vue d'un internaute récemment et qui m'a beaucoup beaucoup plu, c'est un peu comme pisser dans l'océan. Si tu empoisonnes le puits, ça reste un océan, vaut mieux bloquer. Voilà, c'était la petite digression de actuellement qu'est-ce qu'on fait face à toutes ces intelligences artificielles qui vampirisent, inventent et essaient d'imaginer de l'information qui n'est pas forcément utile et qui détruisent le trafic de sites classiques. Je sais que vous, de votre côté, vous êtes amusé à faire un LLM.txt pour expliquer à l'IA où chercher, quoi faire, comment le faire. Et ça m'a pas mal impressionné le jour où on s'est rencontré à Vivatech, parce qu'au final, tu te retrouves avec ton windsurf et tu lui dis « Vas-y, installe-moi le truc », et il te guide pas à pas parce qu'il va aller se bouffer la doc. Et si tu peux nous expliquer comment vous avez fait ça, moi, ça m'intéresse pas mal.
Bah, l'LLM.txt, c'est un standard de facto qui est apparu il n'y a pas trop longtemps. Et l'idée, c'était justement ça. Parce que c'est pas seulement le problème qui va scraper ton site. C'est que plein de fois, il va pas trouver ce qu'il cherche. Et donc, l'idée, c'est de faciliter la vie. C'est un peu une version optimisée pour l'LLM de sitemap.xml que les vieux avons utilisé il y a une vingtaine d'années. Quand tu décrivais ton site pour que Google puisse, au moment où il l'a scrapé, mieux le comprendre. Là, l'LLM.txt, je mets le lien au site qui l'explique, l'idée c'est qu'il va décrire en Markdown ton site avec les liens qui vont bien et tout dans une explication en langage naturel qu'il va pouvoir exploiter directement, suivre les liens, éventuellement les liens vers d'autres fichier Markdown qui explique d'autres parties de ton site. Et comme ça, quand l'LLM va scraper ton site, ou quand un utilisateur dit « Comment est-ce que je peux déployer tel truc sur Clever Cloud ?» Il va aller sur notre site, il va trouver les informations, il va trouver les liens vers la page « Comment est-ce que je peux déployer tel truc ?» et il va récupérer la procédure et la donner. C'est faciliter la vie. En le faisant, il va te scraper de toute façon. En plus, pour plein de cas, dans notre cas, on a envie qu'il nous scrape parce qu'on a envie que nos utilisateurs puissent être aidés par l'LLM pour déployer. On va les faciliter la vie en donnant l'information de la façon la plus utile pour qu'ils puissent exploiter.
Et c'est un vrai sujet en ce moment que de se retrouver avec beaucoup de trafic inutile. D'autant que là, on se retrouve avec les gros providers américains qui, comme Microsoft, se retrouvent à dire par défaut, j'active mon IA et maintenant, puisque je t'aide à remplir tes formulaires avec de l'IA, tout le contenu que tu vas valer sur Microsoft Edge remonte sur mes serveurs, qui que tu sois, quoi que tu sois. Et quand derrière, tu as en fait une institution avec des enjeux bancaires, coucou. C'est un vrai sujet de souveraineté et un vrai sujet de est-ce qu'on peut continuer à faire confiance aux acteurs américains.
Ça, c'est un autre problème, un problème de qui on parle très souvent. Et en effet, c'est un problème compliqué. Mais ce n'est pas limité, comme tu dis, c'est aussi par rapport aux navigateurs qu'on utilise, c'est par rapport à la nouvelle génération de navigateurs d'OP au LLM que OpenAI et Perplexity seraient en train de préparer. Je dis seraient parce que je l'entends depuis 3 ou 4 mois, même si personne ne les a vus vraiment. Mais a priori, ça va être, en s'accentuant, ces problématiques-là.
Je pense plus qu'ils sont en train d'essayer de créer le prochain téléphone portable en mode réseau social intégré LLM first. Genre d'ici la fin de l'année prochaine, ça ne m'étonnerait pas qu'OpenAI dise « Ceci est une révolution, mais ce n'est pas l'iPhone, c'est le LLM machin. »
Les deux tableaux, la partie de créer un navigateur a été officiellement annoncée et l'idée, c'est changer la façon comme les gens utilisent les navigateurs. Aujourd'hui, par défaut, tu tapes quelque chose dans la barre de recherche, s'il y a Google en 90% des cas, Bing dans les 9% restants et peut-être un ou deux geeks qui utilisent DuckDuckGo ou Quant. Voilà, c'est pour ça, il y en a toujours, et assez souvent ils sont dans notre podcast. Mais l'idée, ce serait des navigateurs dans lesquels il n'y a pas de moteur de recherche intégré, il y a un LLM qui fait de la recherche d'OP à la IA pour toi, avec tous les inconvénients et avantages que ça impliquerait. Après, on lève le capot et tous les sujets liés à la souveraineté, mais aussi à la vie privée, mais aussi au respect de tes données qui découle de là. Oh, on voit qu'Erwan a une petite invitée dans les podcasts.
J'ai mon petit troll qui vient me voir en me disant « Je suis prêt à aller à la plage, moi.
» Nickel.
Allez, va voir maman, ma petite.
Oh j'ai d'autres liens à parler autour de l'IA maintenant qu'on a lancé ça, parce qu'il ne peut pas avoir un épisode de Massy sans les derniers drames de la tech. Là, c'est plus qu'un drame, c'est, comme on dit ça, un feuilleton. Le feuilleton de Windsurf, vous vous souvenez peut-être, on disait il y a 2 ou 3 mois, ça y est, OpenAI annonçait qu'il rentre dans des accords exclusifs pour acheter Windsurf, l'éditeur de code avec Anayan IA, et ça semblait plier, il y avait plein de milliards à l'appel, et en cours des 10 derniers jours, ça a basculé de 180 degrés. Premier basculement, et Google annonce embaucher les fondateurs et CEO de Windsurf et une bonne partie de la core team de Windsurf à coût de millions pour aller bosser sur DeepMind.
Ça fait que, cher, hein?
Boop, ça fait que mécaniquement, l'achat de OpenAI de Windsurf est tombé dans l'eau. OpenAI a vu comme un achat qui était stratégique pour eux, se le faisait manger directement par Google. Et ensuite, hier, dernier chapitre de feuilleton, on a Cognition, que c'est une boîte, une startup qui faisait un agent de code appelé Devan, assez sympa mais autonome, dit que ils achètent Windsurf pour compléter leur catalogue et avoir l'agent et l'éditeur de code et comme ça offrir un service complet pour les développeurs.
Donc ils achètent la coquille vide. Ils achètent juste l'outil sans les devs.
Ils achètent l'outil, une bonne partie des ingénieurs qui restent, mais pas les fondateurs ni la plupart de la core team. Ils achètent beaucoup de gens qui sont très bons, certainement. Ils achètent un produit qui était parti à la dérive depuis une dizaine de jours avec un CEO par intérim. Et surtout, ils commencent ce que pour moi c'est une consolidation assez logique dans ce marché-là où il y a 50 000 outils pour des développeurs dopés à la IA. Et là, ils commencent peut-être une phase de consolidation qui, je pense qu'économiquement, ça fait sens. Quand tu parlais tout à l'heure, en off, avant qu'on démarre, de aussi, comme pour ces outils-là, la vie n'est pas très simple. Tu nous donnais l'exemple des curseurs, non?
Ah oui, Cursor, c'est un peu compliqué là, ils n'ont pas réussi à stabiliser leurs offres, ce qui fait que les prix ont explosé, ont été renégociés sans trop communiquer avec la communauté, et il y a des gens qui se sont retrouvés avec des notes très très élevées du jour au lendemain, et ce qui a fait un bon gros bad buzz. Mais pour revenir juste deux secondes sur OneSurf avant, on est donc passé d'un deal d'OpenAI à « bonjour, je mets 3 milliards sur la table », ah, finalement Google qui arrive et qui dit ben, je t'achète tes employés à coût de dizaines de millions pour qu'ils viennent chez moi.
Oui, c'est ça.
Ok. Et derrière, le petit nouveau que personne connaît, bonjour, alors nous on achète, mais la coquille vide seulement.
Oui, je vais l'expliquer mieux.
C'est incroyable. Et pendant ce temps-là, Cursor, donc, qui était le fer de lance du regardez, la communauté s'est organisée à refaire VS Code, mais sans le truc casse-pied de Microsoft qui tombe dans ses travers de vouloir tout verrouiller et dire vous utiliserez que Copilot. Parce que quand même, Cursor, Replit, OneSurf, c'est né de la frustration de VS Code qui n'a pas été capable de dire bah tiens, j'ouvre mes produits et je fais en sorte qu'il y ait une communauté qui puisse proposer des choses et je veux que vous utilisez que mon truc propriétaire. Donc ils ont repliqué encore éternellement le même travers que Microsoft a, alors qu'ils avaient 80% de 95% du marché.
Et il y a encore un autre chapitre. Et hier, AWS a annoncé sortir leur propre version de OneSurf au Cursor, aussi basée sur VS Code, qui s'appelle Kiro et que.
T'as même un bouton en mode migrer de VS Code à Kiro en un clic.
Donc voilà.
Ils reprennent même les add-ons et autres trucs, toute la configuration passe de l'un à l'autre. Mais en fait, quand tu regardes un peu, moi, de ce que j'ai pu voir de Kiro, là, j'ai l'impression que c'est juste Clever Cloud. Pas encore, peut-être. Cloud Code, sauf qu'ils ont mis l'option de pouvoir, au lieu de directement faire du code et discuter avec des agents qui vont aller construire un plan avant de faire des actions, ils l'ont mis avec un gros bouton bien visible en mode « vas-y, discute avec l'agent avant de faire n'importe quoi pour construire une documentation et réfléchir à quoi ça doit ressembler. »
Un peu comme le chat de OneSurf. C'est sur OneSurf, tu as un chat en write, ça, c'est un peu le même mécanisme.
Mais tu vois, dans le genre, moi, ce que j'aime bien faire, c'est que Cloud Code, si tu le supercharges avec plein de petites librairies GitHub de la communauté, je pense notamment à un YouTuber qui s'appelle BMAD et qui a sorti la semaine dernière sa méthode BMAD, tu as en fait des personas agentiques qui sont en mode le PO, le PM, le front, le back, etc. Ce qui fait que derrière, tu as toute ton équipe qui est déjà promptée, tu cliques sur, tu tapes brainstorm, ça te fait toute ta discussion de qu'est-ce que tu veux dans ton outil. Ça va tellement plus vite, c'est délirant.
Ça fait aussi les disputes entre les différents.
Oui, tu peux en plus utiliser d'autres outils. Je crois que c'est Supercloud le nom du truc, où tu vas avoir les outils qui, tu vas avoir les agents qui vont aller discuter les uns avec les autres, et de temps en temps, tu as une notification qui te dit bon, ben lui, il a fini de se disputer avec machin.
Donc le 10x ingénieur va vraiment apparaître, quoi. Si tu commences à faire du brainstorm avec toi-même.
Tu remplaces les DevOps après avec du Clever Cloud, t'es bien. À toi tout seul, tu montes une entreprise.
C'est plus que tu augmentes la responsabilité de chacun. Là, le nombre de personnes que je vois produire du code autour de moi qui ne sont pas des développeurs et qui en fait se rendent pas compte de tout ce que ça implique derrière, qui n'ont qu'un vernis sécurité ou technique, c'est génial. Mais il faut les accompagner parce que c'est aussi beaucoup de responsabilité derrière.
Ça, c'est clair. Mais bon, on n'a pas fini de voir la révolution dans ce marché-là. J'ai l'impression qu'il y a des outils nouveaux. Ça, c'est l'impression, il y a des outils nouveaux toutes les semaines. Ça pousse de plus en plus loin.
Bientôt par la pensée.
Bien, la ligne de commande. Et j'ai découvert aussi un petit, on va dire, un petit clone open source de Cloud Code, opencode.ai, assez sympathique pour ceux qui aiment bien coder depuis les terminals directement et qui ne veulent pas trop s'embêter avec des IDE ou des IDE tunés. Et voilà, non, il y a des tonnes et des tonnes d'outils tout le temps. Celui que tu nous dis qui fait tous les rôles, si tu as les liens, je suis preneur parce que là,
j'ai mis dans ton Google Doc, ça s'appelle DIMA-méthode. Mais il y a plein, ça vient avec tout un catalogue de solutions, je t'enverrai des liens.
À mon avis, tu deviens schizo à la fin.
Mais toi aussi, tu vois, tu codes sous Vi et le soir, tu codes sous iMac. Tu vois, c'est...
Dans le même genre, tu vois, t'as Gemini, donc Google qui s'est pointé avec Gemini CLI, donc la même chose que Cloud Code, sauf que leur offre est tellement agressive, je crois que c'est limite du $200 par mois qu'ils t'offrent en termes juste de prompt. C'est délirant, en fait, à quel point ils ont envie de faire venir la communauté de développeurs chez eux. Ils l'ont rendu open source, ce qui, de la part de Google, est... Bah, je sais pas trop s'ils en font beaucoup, beaucoup de genres de produits finaux. Je sais qu'ils sont très actifs dans la communauté open source, mais... là, c'est une approche assez surprenante, je trouve. Et en fait, l'offre qu'il y a derrière, juste en gratuit de Google Gemini CLI, c'est délirant à quel point ils crament de l'argent par les fenêtres pour juste faire venir des devs.
Et ils font de bons prix à tous les autres éditeurs pour qu'ils mettent Gemini bien placé. Et Windsurf, avant les rachats et tous les autres, les crédits Gemini, étaient, ça coûtait moins cher que les crédits d'autres providers. Et il y a une politique que Google, vraiment, il veut récupérer les développeurs. Et ils ont parié très fort.
Ouais. Mais c'est marrant.
Gemini, en plus, a l'avantage de pouvoir prendre plus de contexte que les autres AI à l'heure actuelle, si je ne dis pas de bêtises toujours.
Ah, ils sont extrêmement bons.
Pas de bêtises, ça prend un million de tokens facilement, sauf qu'au bout d'un moment, la surcharge cognitive, on la sent quoi. Disons que les réponses vont être encore, parce que je pense que c'est dans quelques mois ou même quelques semaines peut-être, ça sera pas vrai, mais encore les réponses, il commence à se perdre lui-même quand on les voit des contextes très élevés.
De mémoire, la fenêtre de contexte de Gemini est 10 fois plus élevée qu'un Claude pour comparatif, mais ce que fait Claude, c'est qu'il va utiliser un système de cache où il va régulièrement dire ben tiens, je sais que je vais exposer ma fenêtre de contexte, donc je vais vulgariser ce que j'étais en train de faire pour pouvoir me reprompte et recommencer et avoir une fenêtre de zéro. Voilà. Et en permanence. Et ce qui fait qu'en fait, il est très bon sur le code. Ce qui fait que moi, ce que je recommande en ce moment, et dans 2 semaines, ce sera sûrement autre chose, hein, c'est Gemini, dès que tu as beaucoup de documents à manipuler, un peu volumineux dans tous les sens. Et de l'autre côté, code dès que tu as besoin de faire des choses utiles.
Et actuellement, Windsurf, parce que c'est celui qu'ils utilisent, mais je pense que Cursor commence à le faire, ils ont mis un nouveau mode plan dans lequel ils font justement ça, mais sur n'importe quel provider. En gros, comme Windsurf, c'est lui qui gère le contexte, il fait un plan, il résume, il compacte, et il ne renvoie plus toute la conversation forcément, mais il l'adapte et ça permet que sur que quand il envoie sur OpenAI ou sur Claude, il est beaucoup plus efficace, il envoie moins, il peut tenir la conversation pendant plus longtemps qu'avant, en utilisant justement la même stratégie, mais dans les idées.
Donc oui, la fenêtre de contexte, ça a été longtemps un sujet, mais là, en fait, il y a suffisamment d'arnaques pour pouvoir faire en sorte que ça passe.
C'est ça. Mais c'est un peu comme notre cerveau, on ne garde pas l'intégralité de ce qu'on a dit, on compacte à fur et à mesure... à la volée et on garde les points principaux. C'est comme si j'ai dit sur ces massifs, on a parlé de Foundry BTT, les jeux de rôle, on a parlé de Savey et de EVPF avec Yannick et on a parlé de la IA avec plusieurs liens proposés au début par Constantin et complétés par tout le monde. Et ça, ça me fait dire que c'est un bon moment pour arrêter cet épisode de massifs. Et maintenant, dernier challenge, qui veut me proposer une musique de fan?
Bah, notre invité.
Tu as vu la maîtrise avec laquelle il se défait des sujets et il te passe la patate chaude. Qu'est-ce que tu écoutes en ce moment, Constantin, que tu voudrais faire partager à notre public?
Alors, il faut que je retrouve le message que je t'avais envoyé, mais j'étais tombé sur un truc qui s'installe directement dans le terminal et qui te permet de vibe muser, faire de la vibe musique pendant ton vibe coding. C'est un peu débile. Bah attends, je me suis renseigné sur le podcast avant. Après, ça s'appelle Stodel.cc.
Ok, et c'est on étonnant. Va montrer les liens.
Je sais pas comment. Attends, Stodel.cc, et tu as une démo de ce que ça peut donner directement dans la documentation. Donc, si je vais dans Learn, je copie le texte.
Et donc, comme musique de fan, on vous recommande de vibe, écouter une vibe musique pendant que vous vibe codez avec Stodel.cc.
Je t'ai envoyé le lien. Tu as un exemple de documentation de ce que ça peut donner en fonction des. Il y a des personnes qui font des streams de ça dédiés. C'est étonnant. C'est...
Oh, wow. Bon, bah, je sais qu'on va plonger sur ça. Merci Yannick, merci Erwan, merci Constantin.
Merci.
À très vite. Merci tout le monde de nous écouter. À très bientôt.
Bye bye.